Est-ce que peut-être, Richard, tu peux nous dire, toi, en tant que directeur du FR, pourquoi tu as trouvé intéressant notre idée, même si elle s'avère pas rassembler pour le moment beaucoup de monde. Et puis après, on aura une discussion là-dessus, on parlera du sujet.
Alors bonjour tout le monde. Donc je suis Richard Taillet, le directeur de l'UFR Sciences et Montagnes. Donc à ce titre, effectivement, je peux dire deux mots. Quand le projet m'a été présenté, effectivement, j'ai trouvé ça intéressant. Enfin, plus précisément, au début, j'étais un peu jaloux parce que j'aurais bien aimé avoir l'idée et la mettre en œuvre. Mais non, c'était d'autres qui le font et qui vont le faire. Donc voilà, l'UFR, unité de formation et de recherche. Bon, il y a tout. Il y a formation, recherche. Mon prof, ce chercheur. Enfin, cette action s'inscrit en plein dans le cœur de l'identité de l'UFR. De fait, les étudiants qui sont ici ont rarement conscience du fait que leurs enseignants font de la recherche, ou quand ils en ont conscience, c'est à l'issue d'un cours, ils viennent poser une question, tiens, vous faites quoi, ça m'intéresse, voilà. Mais le formaliser comme ça et puis le publiciser surtout, d'une manière, enfin le systématiser un peu, je pense que c'est effectivement excellent et ça va profiter à tout le monde. Ça va intéresser, enfin, une fois que vous aurez réussi à trouver un format de communication plus efficace, le gars qui met le couteau dans la plaie, bref. Voilà. Non, mais vous trouverez, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà, le principal, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionne du point de vue de ce que vous allez présenter. Ça, je suis persuadé que ça va être très chouette. Et voilà, faut que juste que la pompe s'amorce. Donc, félicitations pour l'initiative. À l'UFR, on essaiera de vous aider, si c'est pour la com, si c'est pour des moyens, à voir combien, mais il y a moyen aussi. Donc, vous êtes déjà venu me voir, on est en contact, on continue à l'être. En tout cas, on vous soutient bien évidemment, de tout cœur.
Merci Richard, on espère être à la hauteur de tes espérances un jour. Bernard, tu veux dire un mot sur l'association?
Bonjour, donc Bernard Fourdinier, je suis président de l'association Science Action. Donc les rencontres qui sont là ont été lancées, l'idée a été lancée au sein de l'association, avec essentiellement Alexandre et Fabien qui ont été les moteurs de cette action. On espère que ça pourra durer et qu'on aura un peu plus de monde. Donc là, c'est le galop d'essai et on ne va pas s'affoler pour ça. Et merci à l'université d'avoir relayé, donc à Richard entre autres, hein, d'avoir relancé le.
Merci. Effectivement, on essaiera de le refaire. Vraiment, je pense que j'en profite pour parler aux étudiants qui sont derrière nous et qui ne nous écoutent pas, mais je leur fais coucou. Salut.
Est-ce que vous pourriez parler moins?
Merci du conseil, hein. On nous a dit aussi qu'il fallait communiquer sur Instagram. J'ai bien noté le point. On va peut-être se lancer dans le vif du sujet, cette conférence sur l'effondrement des Alpes. Je pense que le terme d'effondrement, il percole un peu dans la société. On en entend parler, on en entend des choses plus ou moins scientifiques sur le sujet. Donc, on voulait un peu aborder ça et avec des chercheurs qui travaillent sur la manière dont la montagne évolue dans le contexte du changement climatique, parce que au-delà de la Au-delà du mot et du côté un petit peu fancy de ce mot, il y a effectivement de la vraie recherche derrière. Donc on a avec nous Philippe Deligne, qui est maître de conférence en géographie et chercheur au laboratoire Edithem. Edithem, ça veut dire environnement dynamique et territoire de la montagne. C'est un laboratoire du CNRS et de l'université. Et puis Maëva Catala, qui est étudiante-chercheur, étudiante-chercheur enseignante même, puisqu'elle fait sa thèse au laboratoire aussi, également en géographie, et qu'elle enseigne auprès des licences. On va donner tout de suite la parole au public en délire. Et donc, même si vous n'étiez pas au courant qu'il y avait ça, vous pouvez aussi venir poser des questions, et on sera très très content de répondre. Alors, est-ce qu'il y a une première question?
Bonjour. Moi, je suis extérieur à la fac maintenant depuis quelques dizaines d'années. Simplement, j'aimerais savoir s'il y a vraiment effondrement ou s'il y a une élévation des Alpes d'après quand même ce dont on entend parler à l'extérieur.
Oui, ben, Fabien l'a dit, le terme effondrement, pour ce qui est en tout cas des chercheurs qui travaillent sur la question de la dynamique des Alpes, c'est pas forcément le terme qui serait retenu, quoi. C'est un terme plus poétique, je dirais, que scientifique. Donc, pour ce qui concerne donc la dynamique des Alpes, les mesures qui sont réalisées dans les Alpes suggèrent qu'effectivement, on a toujours, en tout cas dans une partie des Alpes, une surrection, c'est-à-dire une élévation donc de certains des composants du massif des Alpes. Mais dans le même temps, on a également une action d'érosion, laquelle d'ailleurs est entretenue par le fait qu'on a une élévation des Alpes, puisque élévation des Alpes signifie modification des conditions climatiques, évidemment sur des échelles de temps qui sont plutôt longues, et donc possibilité de processus d'érosion particulièrement efficaces, comme le sont par exemple les glaciers. Donc oui, on peut dire que le terme d'effondrement des Alpes n'est pas satisfaisant d'un point de vue de la description de ce qu'est la dynamique des Alpes au sens géologique du terme. En revanche, un certain nombre de processus, de phénomènes qui sont constatés ces dernières décennies dans les Alpes peuvent suggérer qu'il se passe des choses majeures actuellement du point de vue donc de cette dynamique, même si ça ne remet pas en cause l'existence même des Alpes. Alors que le deuxième terme de la proposition qui est affichée, qui est miroir de l'effondrement de notre société, eh bien, demande à être davantage probablement discuté. Mais on peut aussi discuter de l'adéquation du terme effondrement, même dans sa dimension sociétale, par rapport à cette dynamique que l'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés.
Alors, est-ce que... Tu remets en contexte cette notion d'effondrement et comment ça se fait qu'à un moment donné, des gens ont souhaité lier cette notion d'effondrement qui nous vient de la collapsologie telle qu'elle a été définie par quelques penseurs américains comment est-ce qu'on en est arrivé? Est-ce qu'il y a une collusion entre ces deux idées, puisqu'il y a eu récemment notamment une exposition à Annecy, une exposition artistique, mais qui se voulait à aussi avec un cœur scientifique. Quel est votre avis là-dessus et comment est-ce qu'on en est arrivé à cette collusion d'idées? Peut-être Maëva?
Oui, peut-être. Non, je ne sais pas. En fait, j'avoue que je ne m'étais pas vraiment posé la question avant de m'asseoir sur cette chaise. Non, mais j'imagine que c'est lié au fait qu'on associe... l'effondrement en termes de processus géomorphologique. On associe ça au réchauffement climatique, le réchauffement climatique qui est lui-même associé aux effets de notre société sur le climat. Et j'imagine que c'est l'association un petit peu de tous ces termes dans les propos collectifs qui ont amené à cette image-là. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Philippe, mais...
On peut toujours rajouter quelque chose, hein, y a pas de souci. Voilà. Mais donc, peut-être effectivement que cette notion d'effondrement a pu être reprise, en particulier, comme tu le disais Fabien, du côté de certains artistes, parce que la sensation qu'éprouvent un certain nombre de personnes quand ils ou elles fréquentent la montagne, eh bien, renvoie à un sentiment un petit peu d'évolution qui est a priori perçu comme évolution plutôt négative. Je fais en particulier allusion à la perception que beaucoup d'entre nous ont vis-à-vis de la dynamique glaciaire, qui depuis longtemps, en tout cas plusieurs décennies, manifeste effectivement ce changement climatique auquel Maëva faisait allusion. Et disons un retrait des glaciers qui se fait de manière plutôt accéléré ces dernières décennies, en gros depuis la fin des années 80, et qui en même temps se combine avec une évolution du paysage même des glaciers, puisque une partie des glaciers qui demeurent ont tendance à se couvrir de débris rocheux, qui en modifie évidemment la perception, puisque traditionnellement le glacier c'est quelque chose de très blanc, très pur. Et aujourd'hui, beaucoup des glaciers qui sont, disons, visibles facilement, auxquels on peut accéder sans trop de difficultés, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas placés en trop haute altitude, eh bien, sont caractérisés au contraire par la présence d'une couverture de débris à leur surface qui en masque justement la blancheur. Et donc, je pense que ça renvoie, ces questions de perception, ça renvoie effectivement facilement à cette notion éventuellement d'effondrement. Et puis après, on pourrait développer sur un autre thème qui aujourd'hui est devenu relativement médiatisé, qui est la question de la dégradation du permafrost. Généralement, dans les médias, on entend parler de fonte du permafrost. Bon, c'est un terme que là encore, on ne reprendrait pas quand on s'intéresse à cette question-là. Mais donc la dégradation du permafrost qui se traduit, et Maëva pourra en parler longuement, qui se traduit par des écroulements rocheux. Donc là, évidemment, du coup, écroulement rocheux, effondrement, bon, on a évidemment quelque chose qui renvoie très, très nettement. Et on peut, disons, de ce point de vue-là, mentionner le cas de l'écroulement des Drues qui a eu lieu en juin 2005. Les Drues, qui est le sommet emblématique dans la vallée de Chamonix, à tel point qu'il figure sur l'écusson des guides de la compagnie des guides de Chamonix, qui fête cette année son 200e anniversaire. Donc voilà, c'est vraiment la montagne emblématique. Évidemment, quand le pilier Bonatti, en 2005, 50 ans après sa conquête par Walter Bonatti, s'est effondré, quelques semaines avant que ne soit commémoré justement ce 50e anniversaire, ça a été pour, en tout cas au moins les Chamoniards, je dirais, et puis plus largement la communauté des alpinistes, ça a été quelque chose de tout à fait, disons, traumatisant, quoi. Voilà.
Merci. Alors, notre seul étudiant qui a osé venir exprès, parce que d'autres sont venus mais pas exprès. Ah, super. Alors, est-ce que tu aurais une question ou une remarque ou... Pas encore. Ça mature. Okay. Ça s'effondre pas. Richard.
En fait, peut-être que simplement les gens attendent aussi que vous nous expliquiez pourquoi en fait avoir mis ces sujets ensemble. Quel est de quoi vous avez envie de nous parler, vous, en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous pose comme question là?
Alors eux, ils n'ont rien demandé. est-ce que vous pouvez nous dire l'un et l'autre, et peut-être en commençant par Maëva, ton sujet de recherche? Et en quoi ça résonne avec cette question d'effondrement, même si on a bien compris que les mots qui sont là, c'est les mots qu'on entend dans la médiatisation de la science, et vous êtes dans la fabrication de la connaissance, vous avec vos mots et dans votre pratique. Maëva, est-ce que tu peux nous dire sur la photo pourquoi tu t'es pendu au bout d'une corde avec un perforateur? Parce que ça paraît un peu dangereux pour...
Non, mais déjà, je peux raconter très brièvement sur quoi je travaille. Du coup, pour me présenter un peu plus, moi, je suis doctorante, je rentre en deuxième année, donc j'ai toujours ce statut d'étudiante, mais je suis aussi chercheuse, ou jeune chercheuse en tout cas. Je travaille sur tout ce qui est risque glaciaire et périglaciaire dans les Alpes françaises, et un gros point de ma thèse se concentre sur les écroulements rocheux donc dans les Alpes françaises. Et donc moi, j'essaye de cartographier des secteurs qui pourraient être à risque et de modéliser des écroulements rocheux pour voir s'ils pourraient impacter des activités humaines notamment. Donc ça, c'est un peu mon travail global de la thèse. Et donc sur cette photo, on m'a demandé de trouver une photo qui illustrait un petit peu mes actions sur le terrain. Et sur cette photo, je suis en train de placer un capteur de température en paroi. Donc l'idée, c'est d'avoir une idée de la température des parois donc dans les Alpes françaises, et puis surtout de pouvoir suivre l'évolution de cette température, justement pour voir si le fameux permafrost se dégrade ou non dans les Alpes. Et donc voilà un petit peu pour la photo. Donc ça implique pas mal de travail de terrain qui est plutôt sympa. Et du coup, j'ai oublié le début de la question.
En tant que candide, pour moi, le permafrost, c'était plus des terres horizontales, des grandes plaines, comme on nous présente en Russie. Et le rocher fait partie du permafrost également ?
Non, c'est une très bonne question. En plus, j'ai mon ancien prof qui va corriger toutes les bêtises que je pourrais dire, mais... Non, le permafrost, en fait, pour le définir, c'est une température. C'est un état thermique qui serait inférieur ou égal à 0 degré pendant au moins 2 années consécutives. Donc, en gros, c'est un sol qui est froid pendant longtemps. Et donc, on a deux types de permafrost. On a le permafrost plutôt qu'on trouve dans les pays nordiques, en Sibérie, au nord du Canada, etc. Donc, c'est en effet la température du sol qui est froide donc, au sol. Et puis, on a le permafrost plutôt alpin, ou en tout cas qu'on retrouve dans les montagnes. Et là, c'est vraiment des surfaces verticales, c'est des parois qui ont cette température inférieure à 0 degré pendant au moins 2 ans. Après, nous, ce qu'on a dans les Alpes, peut-être que Philippe, tu pourras détailler un peu plus, mais c'est ce qu'on appelle c'est du permafrost. Enfin, il y a ce qu'on appelle une couche active. C'est en surface de la roche, c'est une couche qui est soumise au gel et au dégel journalier et saisonnier. Et puis en dessous, on a des températures qui sont plus froides. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose encore, Philippe.
Oui, on peut toujours. Mais effectivement, le fait que quand on parle de permafrost, on est plutôt en tête les hautes latitudes, ça tient au fait que, évidemment, l'extension du permafrost aux hautes latitudes est très, très supérieure à ce qu'on peut observer dans les Alpes, puisque, comme l'a dit Maëva, on le trouve essentiellement dans les parois de haute altitude, donc en exposition nord, au-dessus de 2500-2800 mètres d'altitude. En exposition sud, c'est même souvent au-dessus de 3000-3500 mètres d'altitude. Donc, du coup, la superficie qui est concernée est assez faible. On a également une forme de permafrost qui est plutôt dans les tas de cailloux qu'on appelle les glaciers rocheux, donc qui est un deuxième aspect du permafrost dans les Alpes. Mais après, le permafrost qu'on a aux hautes latitudes, à la fois par son extension, puisqu'on a quand même un quart de l'hémisphère nord qui est concerné par le permafrost, et essentiellement évidemment aux hautes latitudes, et puis par son épaisseur qui peut faire plusieurs centaines de mètres, aussi bien en Sibérie qu'au Canada, comme l'a dit Maëva, fait que effectivement, quand on pense permafrost, a priori, on pense plutôt aux hautes latitudes. Mais depuis, disons, une quarantaine d'années en Suisse, depuis maintenant une vingtaine d'années en France ou en Italie, où la recherche sur cette question-là a démarré plus tardivement, et d'ailleurs en collaboration avec nos collègues suisses, eh bien, cette notion de permafrost de montagne est devenue quelque chose qui aujourd'hui, effectivement, fait l'objet de recherches actives, quoi. Il faut préciser que par ailleurs, le permafrost, il y a un inconvénient, puisque c'est un état thermique, il n'est pas visible dans le paysage, comme l'est le glacier. Alors que quand on est en Sibérie ou au Canada, quand on construit une route ou un bâtiment, eh bien, la présence du permafrost est rapidement visible si on n'en a pas tenu compte par les dégâts qui sont occasionnés éventuellement par leur déstabilisation.
Bonjour, merci pour les explications. Je me demandais si le permafrost alpin était peut-être un indicateur, c'est-à-dire est-ce qu'il est plus intéressant à étudier le permafrost alpin pour se demander si ça va aussi, il va être plus sensible au changement climatique que ce qui est permafrost au sol, ce qu'on a décrit en Sibérie. Est-ce que c'est justement en regardant ce qui se passe dans les Alpes qu'on pourrait peut-être anticiper ce qui se passerait plus tard sur nos sols directement? Est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a des relations entre les deux?
On a des séries de mesures, parce que l'évolution du permafrost, comme on peut pas regarder des photographies d'il y a un siècle ou d'il y a 50 ans, il faut mesurer, quoi. Et donc, les séries de mesures qu'on a dans le permafrost, elles sont relativement anciennes aux hautes latitudes, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de stations pour lesquelles on a des mesures sur plusieurs décennies, voire même davantage, plusieurs décennies, disons. Alors que dans les Alpes, ces stations de mesure, elles sont relativement récentes, quoi. Pour ce qui concerne, par exemple, la France, on mesure le permafrost dans les parois dont on parlait seulement, nous, à l'Aiguille du Midi, par exemple, depuis 2005 en surface et depuis 2009 jusqu'à 10 mètres de profondeur. C'est le cas également aux deux Alpes. Donc, c'est des séries qui sont très courtes, quoi. Alors, en Suisse, nos collègues ayant démarré plus tôt, il y a des séries de mesures qui sont plus longues. Donc, effectivement, on s'aperçoit que ce soit à haute latitude ou que ce soit en montagne, on a des évolutions du permafrost qui sont très rapides et qui sont même plus rapides que l'évolution de la température de l'air. Donc, je dirais qu'il n'y a pas de possibilité d'utiliser les mesures que l'on fait dans les Alpes pour mieux comprendre ce qui va se passer à haute latitude. C'est, disons, deux phénomènes qui doivent être étudiés dans des contextes, enfin, un même phénomène plutôt qui est étudié dans deux contextes différents, mais qui connaissent une évolution parallèle du point de vue du réchauffement climatique. De toute façon, l'élévation de la température aux hautes latitudes, en particulier dans l'hémisphère nord, donc dans l'Arctique, est aussi rapide que en milieu de montagne, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus rapide qu'à l'échelle globale de la Terre, quoi.
Bon, vous avez déjà commencé à répondre partiellement ou même complètement à la question, mais je vais la reformuler un petit peu différemment et je vais la contextualiser par rapport à la société aujourd'hui et avec la Covid-19. Les gens ont découvert un petit peu ce qu'était la recherche. C'est-à-dire que dans la tête de beaucoup de gens, la science était quelque chose de définitif qu'on savait. C'était des connaissances solidées, consolidées. Et puis, il y a eu cette recherche qui a fait irruption dans la société. Et les gens se disent, mais c'est, la science, finalement, s'est doutée. Personne n'est d'accord. On voit les chercheurs s'engueuler. Et donc, du coup, c'est bien de parler de la recherche. Et du coup, par rapport à cette thématique, qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qui est de la connaissance et qu'est-ce qui relève plutôt du doute, de ce doute scientifique, mais sur les points vraiment que vous avez besoin de renforcer pour que ça devienne quelque chose de, qui peut être diffusé auprès du grand public?
L'idée, c'est de continuer à acquérir de la donnée au fur et à mesure déjà pour avoir une idée de l'évolution de nos objets de recherche. C'est pas facile comme question. À l'issue de ma thèse personnellement, moi j'aimerais savoir, j'aimerais avoir plus de connaissances sur la manière dont se propagent les écroulements rocheux. Apporter ces connaissances-là parce qu'il y a pas mal de questions qui se posent par rapport à comment ça se propage, jusqu'où ça peut aller, en fonction du substrat sur lequel ça tombe, si c'est de la neige, si c'est de la glace, est-ce que les écroulements vont plus vite, moins vite, plus loin, moins loin. Et du coup, moi, la grosse question à laquelle j'aimerais répondre, c'est est-ce que ça peut impacter des activités humaines, parce que finalement, c'est ça qui intéresse. Voilà.
Peut-être pour guider ta réponse, Philippe nous a dit qu'il y avait des séries de mesures qui sont très très courtes dans ce permafrost. Par contre, on a des très bonnes connaissances sur l'évolution de la température. Est-ce que vous avez des moyens d'utiliser cette connaissance sur l'évolution de la température pour comprendre l'évolution du permafrost et éventuellement poser des hypothèses sur des projections?
Non, mais oui, effectivement, on a des modèles pour faire des projections futures, à la fois sur, c'est pas moi personnellement, hein, mais sur les projections climatiques, mais du coup aussi sur des modélisations thermiques du permafrost. Donc nous, ce qu'on fait à la Editem, c'est plutôt du permafrost de parois dans les Alpes. Donc on peut faire des projections futures, mais c'est pas évident et on n'a pas encore toutes les données pour. Pour faire des projections solides, en tout cas, et pour lesquelles on est sûr de ce qu'on va annoncer, quoi. Donc c'est quand même assez compliqué. Et je ne pense pas que c'est des questions auxquelles j'aurai des réponses sur l'échéance de ma thèse, personnellement. Mais en tout cas, c'est des questions que beaucoup de chercheurs se posent pour les années à venir.
Sur la notion de modélisation que vient d'évoquer Maëva, donc effectivement, à partir de la compréhension qu'on a pour le moment des processus physiques qui sont à l'œuvre, dans les parois, pour rester sur cette notion de permafrost de parois, et par rapport donc aux mesures dont on dispose, que ce soit celles que l'on a réalisées nous ou celles qui sont réalisées par nos collègues, il y a effectivement aujourd'hui des capacités de modélisation à la fois de la distribution dans l'espace du permafrost, parce que évidemment les mesures que l'on fait, elles sont sur quelques points. Je faisais allusion tout à l'heure aux équipements qu'on a installés à l'Aiguille du Midi, mais l'Aiguille du Midi, c'est un point. Les Alpes françaises, pour ne pas parler des Alpes européennes, c'est évidemment beaucoup plus vaste. Donc, à la fois, notre compréhension donc de ces processus physiques et l'intégration des mesures nous permet de distribuer spatialement ce qu'est donc la présence ou pas du permafrost. Et puis, effectivement, la modélisation vise à la fois à prévoir ce que sera la distribution du permafrost d'ici la fin du siècle, par exemple, mais les travaux qui ont été réalisés par Florence au sein de notre laboratoire, par exemple Florence Magnin, ont également porté sur modéliser ce qu'était le permafrost, par exemple, au milieu du 19e siècle, à la fin du petit âge glaciaire. Donc, il y a des travaux de modélisation qui sont en cours, qui sont évidemment imparfaits, comme d'ailleurs toute modélisation, mais qui aujourd'hui nécessitent, comme le disait Maëva, de mieux comprendre certains processus, certains paramètres. Par exemple, la question de la fracturation de la roche et de la circulation potentielle de l'eau liquide à l'intérieur donc de la roche. Le fait que l'on ait des parois qui soient donc couvertes parfois de neige, mais dans d'autres cas qu'ils ne le sont pas, y compris une large partie de l'année. Tout ceci a un effet sur la distribution du permafrost et donc son évolution. Et ce sont des choses qui, pour le moment, font l'objet de recherches actives, chez nous, mais pas seulement chez nous, ailleurs, bien sûr, en collaboration d'ailleurs, pour mieux comprendre et pouvoir intégrer ces autres paramètres pour avoir une appréciation plus fine de ce qu'est cette évolution ou cette distribution spatiale du permafrost, avec des enjeux évidemment qui sont la stabilité de ces parois et donc l'effet éventuel de cette dégradation du permafrost, bien sûr, sur le fait que ces parois puissent disons, engendrer des écroulements rocheux dont certains peuvent être très volumineux et affecter, comme le disait Maëva, donc, les populations ou les infrastructures qui sont en contrebas, surtout dans des régions comme les Alpes, qui sont fortement anthropisées. Quoi.
Donc, si je comprends bien, les mesures que vous réalisez visent aussi à alimenter des modèles paramétriques et développer à partir d'observations qui sont mieux connues dans le passé, par exemple, pour aller jusque à l'état de surface du permafrost ou voir ensuite comparer ça avec des écroulements. Peut-être vous avez quelque chose à nous dire sur les écroulements anciens, peut-être, et justement sur ces fluctuations de température récentes.
C'était justement en exemple, puisque ça rejoint un peu votre question, c'est sur justement l'écroulement du lac du Chambon vers l'Alpe d'Huez, si ça a été étudié auparavant.
Alors bon, pour le lac du Chambon, pour le glissement plutôt que l'écroulement du lac du Chambon, on est dans un contexte qui est complètement différent. Quoi. On n'est pas du tout en contexte de permafrost, on est beaucoup plus bas en altitude et on est plutôt, d'un point de vue géologique, dans des séries donc de calcistes qui sont particulièrement fragiles et qui, effectivement, sont un secteur qui, de manière récurrente, ont donné lieu à des glissements, etc. Quoi. Donc, après la question, c'était les écroulements anciens, c'était ça ? Ouais. Alors, ben, disons sur les écroulements anciens, on n'a pas forcément de données très fiables du point de vue des conditions de température. Donc, les séries climatiques sont relativement récentes finalement. Hein. C'est seulement à partir du milieu du 19e siècle qu'on commence à avoir un réseau de stations météo qui enregistrent un certain nombre de données. Et par ailleurs, donc ces stations sont rarement déployées en haute montagne. Donc du coup, on a quand même très très peu d'informations, disons, sur lesquelles s'appuyer du fait de relever météo. En revanche, il y a des modélisations aujourd'hui qui sont proposées du point de vue du climat et qui permettent éventuellement de revenir dans le passé, dans un passé pas trop lointain quand même, sur ces évolutions. Alors peut-être que ce à quoi tu faisais allusion, Fabien, c'est le fait qu'on découvre, je ne sais pas si c'était ça, mais le fait que l'on découvre lorsqu'un écroulement se produit dans ces parois de haute altitude, fréquemment, de la glace présente dans les niches d'arrachement, quoi. Donc qui témoigne du fait qu'on a des conditions de permafrost. Et cette glace, eh bien, on a commencé à la prélever pour en faire des analyses et en particulier pour dater la glace. Et ce qui est mis en évidence, c'est que dans ces niches d'arrachement, d'écroulement qui se sont produits ces dernières années, on a de la glace qui est vieille de plusieurs milliers d'années, 2000, 3000, 4000 ans. Donc c'est la manifestation du fait qu'on a des parois qui, jusqu'à maintenant, étaient suffisamment rendues stables par les conditions donc de permafrost et la dégradation de cette glace qui se traduit soit par le réchauffement de la glace, hein. Le permafrost est un état thermique comme l'a dit Maëva, donc de la glace qui est à moins 4 degrés qui passe à moins 1 degré, ben, ça reste du permafrost, mais évidemment c'est du permafrost que l'on dit chaud et qui d'un point de vue mécanique donc présente des conditions tout à fait différentes. Donc soit le simple réchauffement donc de cette glace, soit même sa disparition avec le dégel de la glace lié donc la fonte de la glace liée au dégel complet du permafrost se traduit donc par des écroulements qui affectent des parois dont la glace témoigne qu'elles étaient stables depuis des milliers d'années. Bon, par ailleurs, on a fait également d'autres travaux qui ont mis en évidence par des datations un peu différentes que certaines de ces parois dans le massif du Mont-Blanc étaient stables depuis 20, 30, 40, 100 000 ans. Quoi.
Comment on date de la glace ?
Donc là, en l'occurrence, ce qui est daté, c'est le carbone organique qui est contenu dans la glace, c'est-à-dire les particules de carbone qui sont transportées dans l'atmosphère et qui, à l'occasion des précipitations, soit sous forme de neige, soit ont été accumulées donc dans les fissures sous forme d'eau qui a ruisselé. Et donc, la datation de ces microparticules de carbone organique donc, permet du coup d'avoir un âge de formation de la glace. Quoi. C'est réalisé par nos collègues à l'IGE de Grenoble. Bah, c'est du carbone d'origine organique qui est contenu dans l'atmosphère, sous forme d'aérosol, si tu veux. et qui, du fait des précipitations, donc, se retrouve sous forme de neige, et puis ensuite sous forme d'eau liquide qui va éventuellement donc pénétrer dans les fissures et devenir de la glace si ces fissures sont affectées par le permafrost.
Alors, je suppose qu'il y a un lien à faire entre le permafrost et puis les glaciers secs et les glaciers humides, comme on les appelle. Est-ce qu'il y a un risque par rapport au passage de glaciers secs à des glaciers humides? Je pense dans la vallée de Chamonix, au glacier du Tacon ou au-dessus de Saint-Gervais, par exemple. Les glaciers secs qui ne fondent pas l'été et qui restent en permanence gelés, quoi.
Alors, en fait, on les appelle pas. Enfin, normalement, on les appelle pas glaciers secs et glaciers humides. On les appelle glaciers à base froide ou glaciers à base tempérée. C'est-à-dire que la glace à la base du glacier peut être proche du point de fusion. Donc, le point de fusion à une pression atmosphérique standard, c'est 0 degré. Quand le glacier est très épais, sous un inland 6, ça peut être moins 1 degré, par exemple. Mais bon, en tout cas, donc une glace qui est très proche du point de fusion. Donc là, c'est un glacier à basse tempérée. Donc c'est un glacier sous lequel, généralement, à l'interface duquel, avec le lit rocheux, il va y avoir un film d'eau qui va faciliter l'écoulement de la glace sous forme de glissement. Et puis, il y a les glaciers à basse froide, qui, eux, donc, présentent une température de la glace qui est très éloignée du point de fusion. Donc, moins 4, moins 5, moins 10 degrés, quoi. Et qui, effectivement, sont soudés, du coup, au substratum rocheux. Et donc, effectivement, qui témoignent de la présence de permafrost, donc, dans le substratum rocheux. Et effectivement, la modification des conditions de température dans le substratum rocheux se traduit par une modification potentielle du type de glacier qui est susceptible donc non plus d'être collé au substratum rocheux et d'être relativement stable, mais au contraire de s'écouler de manière rapide. Et donc on a effectivement un certain nombre de cas pour lesquels des travaux sont en cours, et tu faisais allusion, je pense, au glacier de Tacona, c'est ça, dans la vallée de Chamonix, sur lequel nos collègues de l'IGE procèdent régulièrement à des mesures sous forme de forage jusqu'au substratum, globalement, pour pouvoir mettre des capteurs de température et vérifier, effectivement, et c'est ce qui est malheureusement vérifié, que la température régulièrement à la base du glacier est en train de s'élever, quoi. Donc aujourd'hui, la base du glacier en question est toujours froide, c'est-à-dire qu'on a une température qui est de l'ordre de moins 1,5, moins 2 degrés. Mais ce qui est constaté depuis une quinzaine d'années, c'est que cette température, effectivement, s'élève vers le point de fusion. Et donc, du coup, les conditions d'écoulement du glacier qui, pour le moment, sont simplement le fluage, la déformation de la glace, et puis éventuellement donc les avalanches de sérac qui l'accompagnent, mais avec des faibles volumes, peut se transformer d'ici probablement 20 à 25 ans en un glissement, et donc la possibilité que les volumes de glace à ce moment-là délivrés par le glacier soient très très supérieurs à ceux actuels et déclenchent des avalanches particulièrement puissantes, dont le système de paravalanche qui a été mis en place ces dernières années, qui est le plus grand du monde, ne sera pas en mesure de contenir, quoi.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est le rôle de l'atmosphère par rapport à la Terre. Quand on parle de réchauffement, c'est bien gentil, mais il faut savoir à quelle altitude par rapport à la Terre on se situe, et puis peut-être, je crois qu'il y a des études en Afrique où ça se réfroidit, même si c'est de 1 ou 2 degrés, c'est pas comme partout ailleurs, quoi.
Alors, le seul endroit, a priori, où on a un léger refroidissement, c'est plutôt dans un petit secteur de l'Atlantique Nord et pas en Afrique. Et par ailleurs, les températures, elles sont mesurées donc au niveau de la surface de la Terre ou de l'océan et pas en haute atmosphère. L'essentiel, de toute façon, du réchauffement que subit la Terre est accumulé non pas dans l'atmosphère, mais dans l'océan. Donc l'essentiel de la chaleur est accumulé dans l'océan et pas dans l'atmosphère. L'atmosphère n'est pas en mesure d'accumuler une grande quantité de chaleur. Mais néanmoins, les températures s'élèvent partout, plus ou moins fort, mais elles s'élèvent partout, sauf dans un tout petit endroit de l'Atlantique Nord. Donc, mais en Afrique, ça s'élève aussi, quoi.
Alors, si je parle de l'Afrique, c'est parce qu'il y avait une conférence, il y a un an, je crois, à la galerie Eureka, il y avait des cartes du GIEC où effectivement il y avait des zones africaines qui étaient devenues, enfin, en couleur évidemment, rouge et bleu. C'était plus bleu que rouge. Voilà, quoi.
Le dernier rapport du GIEC contient des liens sur lesquels vous pouvez aller voir les résultats des modèles directement sur Internet, et vous pourrez creuser un peu plus cette question. Il n'y a pas beaucoup de permafrost en Afrique. Il est 13h, je pense qu'on va clôturer. Merci à ceux qui ont fait l'effort de venir. Merci à notre étudiant qui est tenu jusqu'au bout. Bravo. Donc on va discuter avec les étudiants aussi, voir comment communiquer au mieux. C'était important de le faire une première fois, de faire tourner un petit peu le truc. On va apprendre de cette première expérience.
Et on va essayer peut-être d'impliquer peut-être un peu plus les étudiants en amont. On verra si c'est possible. La collègue est partie, Aurélie. Elle me disait qu'on était capable de faire des questionnaires sur les réseaux sociaux et qu'en général, les étudiants répondaient pas mal. Donc, on va peut-être voir ce qu'on peut faire. Bon, en tout cas, merci d'être venu et puis à la prochaine. N'oubliez pas le 9, le prochain Café Science. Président, le prochain Café Science, c'est le 9, jeudi 9 décembre. Demain, tous obèses. Point d'interrogation. À l'MJC.